Huitième instruction.
Saint Jean de la Croix, que Thérèse de l'Enfant Jésus portait sur elle, écrite en permanence, et qui est bien déroutante. Enfin, ce qui est très déroutant, c'est surtout que Thérèse de l'Enfant Jésus y trouvait du réconfort, alors qu'à première vue, c'est pas une parole réconfortante du tout. Et c'est plutôt décourageant. À vue humaine, évidemment, cette vue courte qui est la nôtre, Saint Jean de la Croix dit, il faut être généreux pour supporter les épreuves de l'existence, les épreuves quotidiennes, le poids du jour et la chaleur, comprenons assez concrètement ce que ça veut dire ces temps-ci. Il faut être généreux pour supporter ces choses, afin d'obtenir en récompense la grâce de souffrir davantage. Alors évidemment, moi j'avoue qu'à première vue, ça ne m'encourage pas du tout cette affaire-là. Et j'étais très surpris de trouver que Thérèse était comme fascinée par cette parole. J'ai mis beaucoup de temps à entrevoir ce que ça avait des chances de vouloir dire. Évidemment, on peut toujours se dire, soutenu par le Saint-Esprit, on désire toujours souffrir plus, mais il m'a semblé que ce n'était pas tout à fait ça que ça voulait dire. Ça avait une signification plus réconfortante quand même, et plus simple et plus profonde en même temps. Je dirais que si on est fidèle à souffrir des choses normales, humaines, horizontales, quotidiennes, à deux dimensions, si vous voulez, on obtiendra la grâce de connaître une autre qualité de souffrance, un autre genre de souffrance que j'appellerais, si vous voulez, des souffrances à trois dimensions, et qui sont d'un autre ordre, mais d'un ordre tel que, en effet, on peut être très faible en face d'une souffrance à deux dimensions, surtout si elle augmente un peu d'intensité, et cependant maintenir que c'est rien comparé aux souffrances à trois dimensions, parce que c'est d'un autre ordre. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces souffrances d'un autre ordre? Alors, c'est là où j'ai toujours été un peu fasciné, je l'avoue, par le mystère de la stigmatisation de François d'Assise d'abord, de Catherine de Sienne, et puis d'autres, Catherine de Ricci, que nous connaissons dans l'ordre dominicain et ailleurs. Évidemment, j'ai dû faire la part du feu, si j'ose dire, puisque les médecins, les psychologues sont extrêmement pleins de méfiance et de suspicion à l'égard des phénomènes de ce genre, chez Thérèse Neumann par exemple, malgré l'autre exemple du padre Pio, qui est beaucoup moins discuté et discutable. Quoi qu'il en soit, il y a une suspicion autour de ce genre de phénomène. Et surtout, le docteur Bio, qui a écrit un livre à ce sujet, dit « Moi, je suis plutôt pour penser que sur les 300 cas qui ont proliféré à partir de François d'Assise, parce que c'est un fait que ça ne s'est mis à proliférer, et pour ainsi dire à n'exister qu'à partir de François d'Assise, ça n'existe pas avant, tout au moins c'est pas connu. Alors sur les quelques 300 cas qui ont proliféré à partir de François d'Assise, le docteur Bio dit, je pense que oui, il y en a tout de même un certain nombre d'authentiques, mais de toute façon, ça a un intérêt, dit-il, un intérêt scientifique, ça n'a pas d'intérêt religieux. Je n'ai pas besoin de ça, moi, chrétien, pour être édifié par les splendeurs de la charité. Alors là, je suis pas d'accord. À supposer que ce soit authentique, et au moins pour François d'Assise, et sans doute pour Catherine de Sienne et quelques autres, on peut l'admettre, on doit l'admettre, ça a un intérêt religieux, ça a un intérêt chrétien. Et cet intérêt, c'est vrai qu'on ne l'explicite pas souvent. Il me paraît, on peut peut-être dire d'autres choses, mais enfin, moi, ce qui me frappe, qui m'impressionne énormément dans cette histoire, c'est que c'est le Christ en gloire, c'est la gloire du Christ. Dans Catherine de Sienne, c'est très net, c'est le Christ avec ses plaies glorieuses, Il y a comme des rayons lumineux, comme des lasers qui partent de ces plaies glorieuses et qui viennent frapper le corps de Catherine de Sienne. Dans le cas de François d'Assise, il y a un séraphin qui vient s'en mêler, comme pour Thérèse d'Avila d'ailleurs, pour laquelle on peut parler d'une certaine stigmatisation pour la fête de sa transverbération du 27 août. Mais peu importe le rôle des anges là-dedans, que je ne me charge pas de démêler, quoi qu'il en soit, c'est la gloire. Voilà. Alors ça, c'est tout de même une leçon religieuse extrêmement importante. C'est la gloire qui crucifie. Comme je vous le disais, on nous dit qu'il faut aller de la croix vers la gloire, mais au niveau de François d'Assise et de Catherine de Sienne, eh bien, c'est par la gloire qu'ils sont fixés à la croix. Alors je sais bien, et c'est ici qu'intervient la remarque que je viens de faire au début, je sais bien qu'on nous dira que François d'Assise, par exemple, et les autres c'est pareil, n'a obtenu cette faveur, comme on dit, qu'à la suite d'une longue fidélité dans le domaine de la mortification ordinaire, l'amour de la sainte pauvreté et surtout l'amour du Christ crucifié qui ne cessait de le fasciner, bien avant les stigmates, et que c'est à la suite, à force d'être fidèle en peu de choses, qu'il a été établi sur beaucoup par ce mystère de la stigmatisation. Alors nous en revenons à nos souffrances à deux ou trois dimensions. Vous voyez, en acceptant d'être fasciné déjà par cette souffrance à trois dimensions de Jésus-Christ, mais sans la partager encore, et de supporter pour sa part les souffrances quotidiennes, qui n'étaient quand même pas minces, que tous les saints supportent en général, et avec générosité, eh bien, il a mérité, il a obtenu d'être introduit, lui aussi, dans le mystère de cette souffrance à trois dimensions, que je caractériserai alors par le fait qu'elle est infligée par la gloire. Vous voyez ? Ben ça, c'est tout de même une leçon évidente que nous donnent les stigmates, et quand ils ne nous apprendraient que ça, c'est quand même énorme. D'apprendre qu'il existe des souffrances qui nous sont infligées par la gloire. Et si on dit, ben oui, mais c'est parce que, en fait, il y a le mystère de la croix que Dieu a inventé, on ne sait pas trop pourquoi, et qu'il a ainsi associé la croix à la gloire, de telle sorte que, actuellement, aujourd'hui, nous chrétiens qui sommes invités, c'est le veux-tu, n'est-ce pas, dont vous me parliez hier soir, je crois, dont je ne pense pas vous en avoir parlé à vous, j'en avais parlé aux sœurs de Prouille. Et donc nous sommes invités à achever dans notre cœur et dans notre corps ce qui manque à la passion. À cause de cela, la gloire nous crucifie. Voilà ce qu'on pourra dire. Mais je me permets de dire attention, si Dieu, une des raisons, je crois, pour lesquelles Dieu permet que la gloire nous crucifie à l'image de Jésus crucifié, c'est que ça nous aide à comprendre que la gloire est crucifiante de toute façon, avec ou sans le mystère de la croix, si j'ose dire. À cause de cette épreuve dont je vous parlais hier soir, nous ne mesurons pas ce que c'est que d'entrer dans la gloire. Nous ne comprenons pas ce que ça a de fantastique et de redoutable, à quel point il faut être pauvre, petit, si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants, à quel point il faut être renoncé, à quel point il faut être souple, réduit à une feuille de papier presque transparente et insaisissable pour entrer dans la gloire sans coup férir. Alors, ne comprenons pas ça, nous ne comprenons pas que, une fois résolu ce problème, si j'ose dire, d'entrer dans la gloire, ça n'est pas plus difficile d'entrer dans une gloire qui crucifie le corps que d'entrer dans une gloire qui se contente, si j'ose dire, de crucifier l'âme. Voyez-vous ? Qu'elle crucifie le corps en plus, c'est, je ne dis pas un détail, mais c'est une surabondance qui ne change rien au problème, en ce sens que celui qui a adopté l'attitude convenable pour entrer sans coup férir dans la gloire, se laissera facilement crucifier par cette gloire à la suite de Jésus. Ça ne fera pas d'épreuve, ce ne sera pas une épreuve pour lui, ce sera une souffrance, bien sûr, ce sera une souffrance à trois dimensions, une souffrance qui n'a pas de nom, mais ce ne sera pas plus difficile d'accepter ça qu'il n'est difficile aux âmes du purgatoire, ce que je n'ai jamais très bien compris, mais elle supporte des choses fantastiques et sans aucune difficulté et sans aucun mérite. Bah, tellement, il n'y a pas de difficulté, parce que quand on est bloqué par Dieu dans une impasse, et possédé par son amour, et dans la charité parfaite, eh bien, on peut souffrir n'importe quoi, de très long, de très rude, parce que la nature n'est pas purifiée, qu'elle s'agite et qu'elle se débat sous cette lumière de gloire, justement, on ne peut pas dire non. On n'a pas le choix. Sur la terre, justement, on a bien l'impression que le choix et l'épreuve s'exercent avant cette irruption de la gloire qui crucifie, mais une fois qu'on est mûr pour accueillir la gloire, qu'elle crucifie ou non, on n'a plus le choix. Saint François d'Assise ne pouvait plus dire non. Tant mieux pour lui, n'est-ce pas? Et en général, je pense qu'au niveau de la stigmatisation, on ne peut pas dire non. Alors, donc j'avais toujours été fasciné par ce mystère de la gloire qui crucifie. Je trouvais ça fantastique. Et malgré tout, réconfortant, redoutable en ce qui concerne la gloire, mais réconfortant en ce qui concerne la croix. Hein, ce qui permet à Thérèse de l'Enfant Jésus, je crois, de dire, j'ai compris, je ne sais plus quand ni à quelle occasion, elle a dit, j'ai compris que les martyrs n'avaient rien à faire. Ben, disons plus précisément qu'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien à faire à l'heure du martyr, parce que Dieu les a pris en charge, c'est fini. Voyez. Et il y a dans les premiers temps de l'histoire de l'Église une réponse célèbre d'une martyre qui va exactement dans ce sens. Je crois que c'est Sainte Félicité, à moins que ce soit Sainte Perpétue, parce que avec cette perpétuelle félicité qui les caractérise, j'ai du mal à ne pas les confondre. Eh bien, elle devait mettre au monde dans sa prison un enfant. Et elle était donc dans les douleurs de l'enfantement, et elle faisait pas fière mine, quoi. Elle n'était pas très, très, très brillante pour, elle souffrait comme n'importe quelle femme qui n'a pas fait, qui n'a pas appris l'accouchement sans douleur, et elle criait de douleur. Et comme elle était destinée à, je ne sais plus quel martyr d'ailleurs, si c'était les bêtes ou le bûcher, le bourreau, le gardien lui a dit, tu cries pour ça, qu'est-ce que ce sera, ma pauvre fille, quand tu seras au supplice? Et c'est là qu'elle a répondu, ah mais à ce moment-là, ce n'est plus moi qui souffrirai. C'est le Christ qui souffrira en moi. Pour le moment, c'est moi. Alors, c'est pas fameux. C'est pas voyant. Là, c'est constant, et nous n'y croyons pas assez dans la tradition d'Église. Il y a une bataille qui se joue, mais elle ne se joue pas nécessairement à propos des choses les plus spectaculaires que Dieu fait faire aux saints. Je pense que quand il leur fait faire des choses très spectaculaires et très extraordinaires, ben, c'est pour manifester sa gloire, pour qu'on loue le Père qui est dans les cieux, pour qu'on l'ouvre, que vos œuvres soient manifestes, pour qu'on l'ouvre, Père. Mais la bataille, le moment où on peut être tenté de dire non, se situe le plus souvent, pas toujours, le plus souvent à propos de petites choses préalables, des aventures préalables. Je dis pas toujours, je pense à ce... J'ai dû confondre, quand je vous ai parlé de Jacques de Voragine, ça ne peut pas être Jacques de Voragine, celui qui a été réconforté par le sang du Christ sortant de sa plaie, parce qu'il était anxieux de son salut. Ça devait être un autre. Ma mémoire soit défaillante. Mais il y en a eu encore un. Alors, je ne sais plus son nom non plus, celui-là, qui est mort martyr, mais qui a commencé par apostasier. C'est pas sous la menace des Turcs, je crois, ou des musulmans, et, en Afrique. Et il a commencé par apostasier. Et alors, je sais pas si c'est un dominicain. Oui, c'est un dominicain, c'est ça. Alors ça, c'est exactement ça, le combat tout de même a eu lieu pour lui, dans un premier temps, ben, il a été un peu laissé à ses forces, parce qu'il n'était pas assez purifié, je suppose, parce qu'il n'était pas assez enfant, en fin de compte. Hein. Comme le disait une jeune fille qui est morte à 23 ans, un peu en odeur de sainteté, sans rien garantir, disait pour résister aux passions, comme il faut être fort, ou plutôt, comme il faut n'être rien. C'est exactement ça. Alors, il n'était peut-être pas rien, et il n'a pas résisté à la peur, qui est une passion, évidemment. Alors, il a apostasié. Et puis, il s'est repris, ou plutôt, il a été converti, il a été comme Pierre, en somme. Vous voyez, Pierre en a fait autant. Mais Pierre en a fait autant, lui, pas à propos de son martyr à lui, ce qui est encore moins brillant, et ce qui est la loi la plus générale. Nous faiblissons devant les petites choses, nous trahissons devant les petites choses. Et si nous nous reprenons avec suffisamment d'humilité pour être convertis, alors au moment des grandes choses, encore une fois, Dieu prend tout en main. Mais il faut avoir bataillé longtemps, peut-être, dans les petites, avant d'être établi sur les grandes. Et d'entrer dans la joie crucifiante, qui permet de supporter le martyre avec l'allégresse de Saint Laurent, disant, bon, ben, je crois que ce côté-là est assez cuit, on va passer à l'autre, si vous voulez bien. N'est-ce pas? Bon. Ah, évidemment, tout ça, laisse pas en toi. Mais c'est le jeu de Dieu qui joue avec le corps et le cœur humain, ça devrait au contraire nous réconforter. Et pour moi qui, effectivement, me suis toujours demandé comment faire pour ne pas être infidèle, pour ne pas trahir le Christ à la fin, quoi qu'il arrive, je ne trouve pas d'autre réconfort que celui-là de sentir et de croire que, en effet, avec que l'humilité est une force terrible, comme dit Dostoïevski, c'est-à-dire qu'elle permet à Dieu de nous donner une force terrible. Mais lui et pas nous. Et que si on arrive justement à disparaître suffisamment, d'une manière suffisamment consommée, selon la ligne du renoncement et de l'humilité dont je vous parlais hier, et sur laquelle alors là nous devons trembler de ne pas y être, et de croire y être alors qu'on n'y est pas, si on y arrive, alors je pense que le reste n'est pas à craindre, parce que Dieu s'en charge. Et c'est une loi générale de la vie spirituelle, que le démon essaie de nous faire craindre ce qui n'est pas à craindre et de ne pas nous faire craindre ce qui est à craindre. De nous donner à la fois une fausse sécurité et une fausse peur, l'un comme l'autre, et de nous rendre obsédés à l'égard de ce qui n'est pas dangereux, au fond, mais qui nous fait peur, et de détourner notre attention de ce qui est réellement dangereux et qui ne nous fait pas peur, alors que ça devrait nous faire peur. À savoir bien, notre assurance en nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes, consciente ou inconsciente. C'est ça qui devrait nous faire peur. Bon, alors, supposer justement franchir ces barrages, ce barrage de la trop grande confiance en soi, et qu'on arrive à la parfaite pauvreté, matérielle peut-être, de François d'Assise, mais spirituelle surtout, eh bien, de toute façon, martyr ou pas martyr, alors là, je crois que l'on est invité à la glorification stigmatisante. Car la conclusion que je tire de cette réflexion sur les stigmates, c'est que c'est par la gloire qu'on est stigmatisé. Et que par conséquent, comme nous sommes tous invités à la gloire, nous chrétiens, nous sommes tous invités à la stigmatisation. Seulement, le tout est de s'entendre. Il y a une stigmatisation visible, et tout le monde admet que cette visibilité locale des stigmates est un charisme d'un goût discutable d'ailleurs pour celui qui le subit, parce que assez régulièrement, ou presque toujours, les stigmatisés demandent que ça ne devienne invisible comme Catherine de Sienne l'a demandé. Ils veulent bien être stigmatisés, ils n'ont pas envie que ça se voit. Bon, c'est bien naturel, si j'ose dire, et même en un sens surnaturel, parce que on a envie de cacher ces choses. Et bien. Mais je vais jusqu'à dire que les stigmates invisibles, mais encore sensibles localement, relèvent eux aussi tout de même déjà d'un certain charisme, et non pas du mystère fondamental de la stigmatisation. En ce sens que cette localisation de l'empreinte glorieuse du Christ sur nous est une manifestation visible et un peu grossière de quelque chose de beaucoup plus profond. De même que la croix, spectacle, facile à lire, si j'ose dire, à condition d'avoir comme lecteur le Saint-Esprit. Mais enfin, spectacle sensible, tangible et fracassant à bien des égards. Et la projection sur un écran, ou plutôt sur une scène de théâtre, le théâtre du calvaire, du mystère de l'agonie, eh bien, de même, la stigmatisation visible ou même sensible est une projection grossière, spectaculaire, disons au moins, n'est-ce pas ? Spectaculaire de la stigmatisation invisible qui est tout simplement l'assimilation à l'agonie du Christ. Vous voyez, de même que l'essentiel de la croix c'est l'agonie, eh bien l'essentiel de la stigmatisation c'est la gloire qui nous met en agonie. Alors, faites bien attention, la gloire, et c'est ça la souffrance à trois dimensions. Et c'est ça les souffrances dont parle Saint Jean de la Croix. Et c'est ça le purgatoire, si on n'a pas été assez généreux pour l'accepter sur la terre, c'est-à-dire pour s'y préparer par l'acceptation des épreuves ordinaires et la générosité spéciale qu'il faut avoir, en particulier en fait d'humilité, pour entrer dans ce monastère des souffrances à trois dimensions qui nous sont infligées par la gloire et qui nous configurent à l'agonie du Christ. Ça, c'est l'essentiel de la stigmatisation. Vous voyez, que ça se traduise en plus par des phénomènes corporels, j'admets très bien que c'est une surabondance qui n'est pas essentielle. Mais quand Paul dit « je porte les stigmates du Christ en moi », je traduis, malgré une tendance exégétique actuelle qui consiste à atténuer le mot « stigmata », eh bien, je maintiens la traduction de « stigmata » par « stigmate », ce qui n'est tout de même pas d'une audace insensée, ni intolérable. Alors, je traduis « stigmata » par « stigmate », et par conséquent, j'entends que Paul se présente comme stigmatisé, mais pas forcément d'une manière visible, ni même d'une manière locale. Il est stigmatisé au-delà de toutes ses profondeurs, mais pas d'une manière tellement profonde que ça ne laisse pas de trace. C'est le contraire, dans son psychisme. C'est vraiment une transfiction, il est collé à la croix du Christ par la gloire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mystère de gloire. Et que c'est le pouvoir que le Christ a reçu en ressuscitant de nous associer à lui. Ça, c'est de l'ordre de la gloire. Et alors, Paul, ayant été fidèle aux souffrances infligées surabondamment par la persécution des Juifs en particulier, physiques et morales, qu'il énumère, je serais tenté de dire complaisamment, mais en tous les cas très, très clairement, eh bien, a mérité de recevoir, à l'occasion de ses souffrances, et au-delà de ses souffrances, quelque chose de beaucoup plus profond, qu'il traduit lui-même d'ailleurs, quand il dit, pire que tout cela, l'angoisse de toutes les églises. Alors là, nous entrons dans l'agonie. Vous voyez ? Et là, il est fixé à cette angoisse par la gloire même du Christ, qui le colle comme une ventouse, n'est-ce pas, à cette croix du Christ, et qui le fait de lui un époux, ou plutôt une épouse, parce que l'Église est épouse et qu'il se sent épousé, et c'est ça, l'Église épouse. C'est l'adhésion féminine, je dirais, de type féminin à la croix du Christ, en sens que c'est pas nous qui sommes crucifiés. Nous ne sommes que associés par la gloire du Christ et collés par la gloire du Christ à son agonie. Quel que soit le spectacle selon lequel se déroule cette agonie, c'est toujours à ça que la gloire du Christ nous configure qu'elle nous ventouse. C'est un néologisme qui ne marche pas du tout, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a comme une adhérence magnétique provoquée par la gloire du Christ et qui fait de nous l'épouse du Christ. Je vous ai fiancé comme une vierge à votre époux qui est le Christ. Il dit ça justement à toutes les églises. Alors, ce qui est vrai de François d'Assise, ce qui est vrai de Paul, ben, je suis sûr que c'est vrai par éminence de la Sainte Vierge. De sorte que, au pied de la croix, comme le dit la liturgie, Felices sensus beate Mariae Virginis, quae sine mortis inventione meruerunt martyrii palmam sub cruce Domini, bienheureuse la sensibilité physique, corporelle de la Vierge Marie, qui sans que la mort intervienne, c'est-à-dire sans que son âme soit séparée de son corps, elle a quand même reçu la palme du martyr sous la croix du Seigneur, donc elle a été vraiment et rigoureusement martyrisée. Donc elle a connu la mort. Elle a connu la mort, non pas comme... Parce qu'il faut bien comprendre que la mort, je n'ai pas le temps de m'en expliquer à fond avec vous, mais la mort est un phénomène de la vie. N'est-ce pas ? Parce qu'une fois que on est mort, il n'y a plus de mort. C'est autre chose, je ne sais pas ce que c'est, parce que j'y suis pas allé. Mais ce n'est plus ce qu'on appelle mourir. Pour mourir, il faut être en vie. N'est-ce pas ? Bon. Eh bien, sous l'aspect où la mort est un événement de l'histoire humaine, de la vie humaine, sous cet aspect-là, Marie en a connu l'intégralité. Pas à l'Assomption. Au pied de la croix. Vous voyez ? Elle a été épouse de la mort de son fils. Et comme la mort de son fils, au fond, c'est l'agonie, elle a été épouse de l'agonie. Mais elle a été épouse de l'agonie sous la pression de la gloire de son fils, qui était là, et qui, ou bien au-delà de toute sensibilité humaine, de toute agitation humaine, de toute émotion humaine, qui d'ailleurs est tout à fait, qu'on peut se représenter dans le cas de la Sainte Vierge, elle voit son fils crucifié, et c'est ce qu'on fait au moment du chemin de croix. Mais elle était possédée par un mystère à trois dimensions, et non pas seulement par ses souffrances à deux dimensions, que nous pouvons évoquer assez facilement, et peut-être trop facilement, peut-être dangereusement, parce que on peut s'y attarder trop, et alors on ne comprend plus ce que c'est, parce qu'on ne se représente plus que la Sainte Vierge était soutenue et possédée par la gloire, qui, au moment même où elle était livrée à toutes ses souffrances à deux dimensions dans toute leur horreur, était quand même livrée à une souffrance bien plus profonde encore, mais par la gloire. De sorte que si on se représente la Sainte Vierge comme souffrant seulement à deux dimensions et puis étant héroïque, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, pas plus que Thérèse de l'Enfant Jésus n'acceptait quand on lui dit « Quel courage vous avez ?» Elle disait « Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça, ben oui, c'est pas ça. » Et si les prédicateurs sont souvent tombés dans ce piège, d'essayer d'en remettre, quand ils décrivent la passion du Christ et la compassion de Marie, au niveau de la souffrance à deux dimensions. Alors évidemment, cette absence de la gloire et de la souffrance à trois dimensions, de l'agonie dans leur prédication, défigure le tableau et provoque une espèce de sentiment purement humain d'horreur et de peur et d'anxiété. Et alors ça aboutit à ce brave curé dont on m'a raconté, je ne garantis pas l'histoire, alors celle-là je ne la garantis pas du tout, mais enfin je me suis laissé raconter, il paraît que c'est quand même vrai qu'il en remettait tellement, et c'était dans le midi d'ailleurs, vous voyez, c'était dans le midi, et il en remettait tellement que les auditeurs étaient complètement alors à ramasser la petite cuillère, ils s'en apercevaient pas, et puis en cours de route ils s'aperçoivent qu'ils sont complètement paniqués, alors il arrête les frais, il avait fait des efforts d'imagination fantastiques pour représenter les choses concrètement, mais comme au cinéma, vous comprenez, pas en profondeur. Alors en les voyant secouer comme ça, il arrête et dit, oh non, mes frères, pleurez pas, après tout, c'est peut-être pas arrivé, histoire lointaine, histoire incertaine, et en effet, c'était pas forcément arrivé comme il le disait, n'est-ce pas, il en savait rien, c'était pour toucher, ben oui seulement, il vaut mieux, je crois, que ce soit la gloire qui nous touche, n'est-ce pas, que ce soit la gloire qui nous entraîne vers ce mystère, cet abîme, ce puits, c'est comme un puits, vraiment, hein, donc on penche la tête dessus, et puis on voit un trou noir, et on laisse tomber un caillou, et puis on n'entend rien, ça n'a pas de fond, hein. Il y a la croix du Christ, et l'agonie du Christ, et ça c'est un puits, et il faut en avoir peur, comme le buisson ardent, mais pas une peur comme d'une chose purement et simplement horrible, c'est un mystère de gloire, je le répète. Et alors la Sainte Vierge a été épouse du Christ, stigmatisée par la gloire, au pied de la croix, et c'est pour ça qu'elle a été debout. Là encore, la tradition chrétienne est unanime là-dessus, mais attention à l'interprétation héroïque de cette station debout. C'est pas du tout de l'héroïsme, c'est qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle était fixée, elle était possédée par la gloire, et elle était en agonie avec lui, et crucifiée avec lui, mais bien au-delà de tout ce que la psychologie humaine peut expliquer. Ça n'a pas de nom. Et alors, justement, on peut dire que l'Assomption de Marie commence au pied de la croix. Et voilà comme ça qu'il me semble qu'il faut la voir. Elle a reçu une injection de gloire à ce moment-là, qui a d'abord achevé de la conformer au mystère de l'agonie de son fils. Et alors là, elle est descendue dans les profondeurs, non pas dans les profondeurs des ténèbres directement, mais dans les profondeurs de la miséricorde, voyant les ténèbres. Toujours la même chose. Les ténèbres vues par la miséricorde. Et même cette miséricorde, elle ne l'a reçue que par le cœur de son fils. Elle n'a pas eu affaire directement à la miséricorde comme Jésus. Ça, lui, c'était beaucoup plus la prise directe. Mais elle, par le cœur de Jésus, a été initiée aux profondeurs de la miséricorde, donc aux profondeurs de l'enfer, tel que la miséricorde le voit, le sent et en meurt. Alors, elle est morte avec lui, dans la mesure où la mort est un événement de la vie, je vous le répète. Hein. Elle est morte avec lui. Finalement, j'en arrive à ce paradoxe de dire que la séparation de l'âme et du corps est quelque chose d'assez secondaire par rapport au mystère de la mort. Enfin, on peut très bien connaître l'intégralité de la mort et puis en revenir. Après tout, si à la suite d'une longue agonie on entre dans le coma, et puis qu'on reste... Lazare, ça, c'est bien ce qui lui est arrivé. Il est mort deux fois. Ben, la première n'était pas la bonne, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que son âme n'a pas été réellement séparée de son corps. En tout cas, elle n'a pas été jugée par Dieu. sans quoi il n'aurait pas pu revenir. Le jugement étant irrévocable. C'est ce que j'appelle la mort théologique, n'est-ce pas ? Ou théologale. C'est quand on paraît devant Dieu. L'âme de Lazare n'est sûrement pas parue devant Dieu, c'est pour ça que le Christ a dit, il dort. Aux yeux humains, il est mort, mais aux yeux de Dieu, il dort, parce que je le mets de côté un peu au frigidaire, quoi, en attendant de le réveiller dans 3 jours, et il va réintégrer son corps, par conséquent, il est mort, mais il n'en est pas mort. Eh bien, Marie, c'est la même chose, en fin de compte. Je parle au pied de la croix, je ne parle pas de ce qui s'est passé à l'Assomption, c'est autre chose, mais au pied de la croix, elle est morte, mais elle n'en est pas morte. Et la gloire a continué à la posséder, une fois son Fils ressuscité, et alors à ce moment-là, elle est entrée dans un état que je trouve extraordinairement fascinant, et qui a d'ailleurs été le point de départ de toutes mes réflexions sur la Sainte Vierge et la gloire, c'est que je me suis dit, elle ne peut pas être moins épouse après la croix qu'au pied de la croix, donc elle a épousé la résurrection et la gloire de son Fils comme elle a épousé sa mort. Donc elle a été possédée par la gloire, et cette fois délivrée de la souffrance, délivrée de la morsure au talon de l'enfer qui lui était infligée par la miséricorde à partir de la résurrection. Et elle a vécu dans cet état où elle pouvait dire mieux encore que Thérèse d'Avila, je meurs de ne pas mourir. Vous voyez, je n'ai plus que ça, il n'y a plus que cette souffrance-là. Mais évidemment, ce n'était pas une petite souffrance, c'était une immense souffrance à 3 dimensions, ô combien, mais ce n'était plus les ténèbres. Voyez-vous, ce n'était plus l'enfer, ce n'était plus la miséricorde, en somme. Ou si c'était la miséricorde, c'était que la douceur de la miséricorde, la gloire de la miséricorde, dans sa douceur, ce n'était pas la miséricorde en tant qu'elle est crucifiée. N'est-ce pas ? Ça, elle la connaissait à la manière de Dieu, cette miséricorde crucifiée. Comme Jésus lui-même maintenant, et comme maintenant elle la connaît, c'est-à-dire sans en souffrir. Sans en souffrir dans son corps. Elle n'en souffrait plus. Mais elle souffrait encore de ne pas mourir. C'est pas seulement cette souffrance, qui n'a pas de nom, qui dépasse une souffrance, était à son tour dépassée par quelque chose de beaucoup plus profond encore, qui est la paix de la gloire. Qui est l'océan de cette paix, qui a tamponné, je dirais, amortissé, engloutissé toute souffrance, même celle-là, dans un océan de paix, tel qu'elle était déjà au ciel tout en étant sur la terre, et qu'elle est la première de tous les mystiques à pouvoir dire ce que tous les mystiques ont dit au moins à un certain moment, je ne sais pas ce que le ciel me donnera, de plus que ce que j'ai maintenant, je le verrai certes, mais pour ce qui est de le posséder, je le possède déjà parfaitement. Et c'est encore la parole de cette petite mystique extraordinaire qui était une handicapée mentale, qui a vécu à Béziers, je crois, et dont la vie spirituelle a raconté l'histoire, qui est morte il y a 6 ans, je crois, qui est morte brûlée vive. Enfin, elle a commencé par être brûlée vive à la suite d'un accident, parce qu'elle voulait rendre service, elle a renversé la bouteille d'essence, et elle a pris feu, et elle a été une espèce de broussaille brûlée vivante pendant des semaines, ou tout au moins des jours. Et même des semaines. Et on a essayé de la sauver en lui coupant une jambe, puis une autre. Enfin, c'était horrible. Et ça se passait à l'hôpital de Bessy, je crois. Je crois. À moins que ce ne soit Narbonne, à moins que ce ne soit Montpellier. Bon. Mais je crois que c'est plutôt Bessy. Tout ça un peu le midi, vous savez, je confonds. Alors, et ce qui est certain, c'est qu'elle a converti tout l'hôpital parce qu'elle était dans la gloire. Elle était dans la gloire et elle n'était même plus dans l'agonie. Spirituellement. Elle était dans une telle joie, et justement, elle était handicapée avant, on ne savait pas très bien son secret, elle était comme prisonnière, murée, comme tous les handicapés mentaux, mais alors là, elle s'est mise à parler et à chanter sa joie. Et alors tout le monde était comme ça, ahuri de voir cette beauté physique, ce rayonnement sortant de cet être difforme, décomposé par la mort et par la brûlure, et qui disait, par exemple, oui, j'ai bien deviné que vous voulez m'enlever une jambe, parce qu'il m'a demandé une jambe. Lui, Jésus, m'a demandé une jambe, je lui ai donné les deux, si vous voulez, tout ce qu'il voudra. Et alors la sœur lui dit, la religieuse lui dit, mais est-ce que tu serais contente de mourir, de partir, d'aller au paradis? Et c'est là qu'elle a ri, car elle riait tout le temps, dans cet état. C'est là qu'elle a ri en disant... Si je meurs, je serai avec lui. Si je meurs pas, je suis avec lui. C'est pareil. C'est comme il voudra. pas? Bah, évidemment, à ce stade, bien sûr. Et je crois que la Sainte Vierge était à ce stade, entre la résurrection et l'Assomption, et que si elle avait subi un martyr physique, bien, je crois qu'elle l'aurait subi alors vraiment comme Saint Laurent, parce que le moment de l'épreuve avec les angoisses de la mort était passé au moment de son fils, et que au sujet des angoisses de la mort, elle était délivrée, même si on l'avait martyrisée, comme Saint Laurent semble bien avoir été délivré au moment de son martyr de toute angoisse, comme cette petite fille était déjà délivrée au moment de son martyr, on peut dire, de toute angoisse, ce qui est tout de même le principal de l'affaire. J'avoue que si peur que j'ai des souffrances physiques, je rends compte que justement ce dont il faudrait être délivré, c'est de la peur, plus que des souffrances physiques elles-mêmes. Mais alors ça, c'est vraiment le miracle de la gloire qui l'accomplit. Je dis donc que la Sainte Vierge était dans cet état, et qu'elle était donc prête à mourir à tout instant, à mourir ou à partir. Là, moi je ne fais pas beaucoup de différence, vous comprenez? L'âme était prête à partir, le corps suivrait s'il pouvait, hein. C'est si tu peux venir, tu viens, si tu peux pas venir, au revoir. Était-ce avec mon corps, je ne sais, était-ce sans mon corps, je ne sais, Dieu le sait. Eh bien, la Sainte Vierge sentait bien qu'elle allait partir, comme Élie sentait qu'il allait partir. Serait-ce avec mon corps, je ne sais, serait-ce sans mon corps, je ne sais, peu importe, il suivra s'il peut. Il a suivi de toute façon, peut-être avec un léger retard, mais ça me paraît, je n'ai pas une question chronologique tout à fait secondaire. Le fond de l'affaire, c'est que l'âme est partie sous la pression de la gloire et qu'elle a entraîné le corps. N'est-ce pas? Voilà. Alors, les délais, l'horaire, écoutez, nous le connaîtrons dans l'éternité, je ne sais pas, et c'est tellement secondaire si on comprend la nature profonde du mystère. En tant qu'événement de la vie humaine, elle n'était déjà plus livrée aux angoisses de la mort, c'était fini. Par conséquent, elle n'était plus livrée qu'au départ, sous la pression douce et joyeuse de la gloire, et ce départ, elle l'a accompli avec ou sans son corps. J'ai plutôt tendance maintenant à penser avec son corps, parce que autrefois, je me disais, il faut qu'elle ait fait comme Jésus-Christ, mais je comprends mieux maintenant qu'elle a fait comme Jésus, elle a épousé la mort de Jésus au pied de la croix, elle n'avait donc pas besoin de l'épouser de nouveau à l'Assomption, au moment où il était lui-même dans la gloire, et où il n'avait plus qu'à le suivre dans la gloire. Alors que maintenant, cette fête de l'Assomption s'ouvre pour nous, dans un grand désir de connaître ces choses, dans un grand désir qui, pour ma part, ne me paraît réaliste que s'il est accompagné d'une certaine crainte, qui après tout peut être une crainte servile chez moi, mais qui peut être le don de crainte filiale chez vous. Alors, quoi qu'il en soit, je vous conseille de ne pas abdiquer toute crainte en face de ces choses, tout en demandant que le désir l'emporte et nous emporte tous avec la Sainte Vierge dans cette lumière.